monsieur, bonsoir. Ah, ça fait peur. Ouais, bon, d'accord. Donc, je raye l'idée de prendre la voix du 20h pour faire parvenir des actualités sur Pod Radio. Franchement, ça colle pas du tout au ton du reste, on dirait. Mais non, restez quand même, hein. J'ai des choses à vous dire. C'était pas juste pour dire une grosse connerie au début. Alors, aujourd'hui, une nouvelle fournée d'informations sur le prochain système d'exploitation d'Apple, j'ai nommé Snow Leopard, est apparue sur Internet. Alors, vu que même si on approche de la WWDC de ce 8 juin, dont je vous rappelle que la keynote d'ouverture sera l'objet d'une émission événement en live sur Pod Radio, faites passer le mot, hein, les avocats d'Apple risquent d'effacer rapidement ces captures, bien sûr, contrat de non-divulgation oblige. Je vais donc maintenant vous décrire ce qu'on peut y voir d'intéressant. Alors, je vous le rappelle, Snow Leopard n'est pas, enfin ne sera pas à proprement parler un nouvel OS, comme on a pu avoir de l'évolution de, je sais pas, Windows XP vers Windows Vista ou Tiger vers Leopard. Il sera plus comme Windows 7, enfin c'est plutôt Windows 7 qui sera comme Snow Leopard. Il s'agira surtout d'une refonte en profondeur du système actuel qui est Leopard. Les fonctions les plus alléchantes sont donc dans l'optimisation du système avec pêle-mêle de nouvelles technologies comme Grand Central ou OpenCL pour utiliser au mieux les capacités physiques de votre ordinateur Apple et un grand nettoyage de printemps pour le code, son organisation, donc quelque chose de beaucoup plus léger. Moi je trouve ça très alléchant, mais qu'en est-il des nouvelles fonctions pour l'utilisateur final? Parce qu'il faut bien quand même qu'il ait quelque chose à se mettre sous la dent pour qu'ils puissent vendre leur système. Car oui, voilà, c'est pas drôle sinon, donc je suis sûr qu'il y en aura qui pour l'instant sont inconnus qui seront dévoilés dans une semaine, mais en attendant, les quelques captures d'écran dont je vous parlais au début montrent surtout des améliorations dans trois grands secteurs qui sont le Finder et les applications de base, les préférences système et QuickTime. Commençons par QuickTime avec sa nouvelle version QuickTime X ou QuickTime 10. On peut y voir ici son interface minimaliste, donc le minimaliste qui est si cher à Apple. Tellement minimaliste ici que pendant une lecture on pourrait même faire disparaître jusqu'à la barre des boutons qui est en haut de la fenêtre. On n'aurait plus que l'image en mouvement, mais rassurez-vous, avec des actions de la souris, de jolies fenêtres et éléments d'interface, reprenons une sorte de design iTunesien mélangé avec du coup d'œil, enfin au quick look, et du noir laqué apparaît. Et cette interface ne semble pas en reste. On peut y voir les fenêtres d'information, de réglages mieux rangés et des fonctions minimum d'édition de vidéo, et une autre fonction d'enregistrement de ce qui se passe à votre écran. Un panneau de partage vous propose aussi maintenant de partager directement vos vidéos avec une Apple TV, MobileMe, tiens, une fonction de galerie vidéo dans MobileMe, et YouTube. Pour finir, plus de mention de version pro de QuickTime, on peut donc penser que ce sera la fin de cette contrainte maintenant offerte pour chaque utilisateur. Passons maintenant au Finder, l'équivalent de l'explorateur du fichier pour ceux qui sont sous Windows ou Linux. Avec l'apparition de juste quelques actions en plus et un bouton coulissant pour régler directement la taille des icônes. On peut donc imaginer plusieurs fonctions étant liées avec Quick Look et cet agrandissement ou ce rétrécissement dynamique des icônes. Spotlight permet aussi d'afficher ces réglages en choisissant de chercher par défaut dans le dossier courant ou dans l'ordinateur en entier. Les piles du dock, outre le fait qu'on peut naviguer dans les dossiers grâce à elles, offrent maintenant un défilement vertical en mode grille avec un petit ascenseur tiré de l'iPhone. Le carnet d'adresses et iCall permettent d'avoir plusieurs comptes synchronisés avec MobileMe, Yahoo, Google ou bien maintenant un serveur Exchange. Passons rapidement sur Automator qui gagne en clarté pour aller voir du côté des préférences système où les développeurs de petits utilitaires vont tirer la tronche. En effet, nous avons maintenant un panneau de remplacement automatique d'écriture. Par exemple, si vous avez des phrases que vous tapez sans arrêt, vous pouvez ici régler un jeu de caractères pour que macOS le remplace par cette phrase ou cette formule. En règle générale, tous les panneaux de préférence gagnent une organisation claire et soignée, les scanners sont maintenant directement partagés, les réglages du coupe sont plus précis. Les panneaux de réglage de souris, quant à eux, si maintenant dorénavant aucune souris USB n'est branchée, la détection Bluetooth se lance automatiquement. Pour finir, le réglage de l'heure peut se faire dynamiquement via une fonction de localisation de GPS si vous l'activez, donc c'est assez pratique si vous bougez souvent. Et dans les panneaux des mises à jour, on peut noter que l'onglet des mises à jour installées a été renommé Installed Software, donc logiciel installé. De là à penser qu'Apple ouvrirait un App Store pour le Mac, bon, c'est comme ça que l'on crée une rumeur. Ouf, bon, voilà, si vous avez suivi jusqu'au bout, j'en conclurai donc que les changements visibles pour l'instant sont surtout des améliorations minimes de fonctions déjà présentes, mais qui nous changeront sûrement bien la vie quand même. Rendez-vous le 8 juin sur Pod Radio pour savoir si nous aurons droit à quelque chose de plus gros à nous mettre sous la dent. Sur ce, riez, chantez, amusez-vous sous le soleil, sans oublier la crème solaire, et à bientôt pour de nouvelles informations.